VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En RCA, les autorités refusent d'accorder le droit de vote aux prochaines élections d'octobre 2015 aux centaines de milliers de réfugiés centrafricains installés dans les pays voisins. D'où un appel du HCR au gouvernement de transition pour qu'il revienne sur cette décision. Marie-Cissé Ndeye, chargée des relations extérieures au HCR, au micro de Félix Yepassi Zimbrou.
Nous espérons que les réfugiés participeront aux élections à venir et donc que le Parlement, que les autorités centrafricaines reviendront sur leur décision d'exclure les réfugiés centrafricains du processus électoral.
Ben là, pour l'heure, vous recensez combien de réfugiés dans les pays limitrophes?
Il y a un peu plus de 460 000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et en République du Congo.
Vous espérez attendre une décision quand exactement, madame?
C'est plus la décision des autorités centrafricaines que de l'ANE de manière spécifique. Parce que l'ANE, en fait, là maintenant, c'est le gouvernement centrafricain qui est attendu par rapport à cette décision du Conseil national de transition.
Donc en clair, les négociations sont en cours plus avec le gouvernement qu'avec l'autorité nationale des élections.
Voilà, l'autorité nationale de transition, ils ont sollicité le HCR depuis le 6 juin à les aider à faciliter le vote des réfugiés. Et donc, cela a été acquis avec l'ANE, on va dire. Il s'agissait maintenant de formaliser cette inclusion des réfugiés dans le processus électoral, dans le code électoral, bien parce que le code initial n'avait pas ces dispositions-là.
Marie-Cissé Ndeye du HCR. Au nom de 17 organisations de défense des droits humains, Human Rights Watch exhorte le président américain Barack Obama à profiter de son prochain séjour au Kenya pour demander avec force au gouvernement kenyan d'améliorer le respect des droits humains dans le pays. Dans leur lettre au chef de l'exécutif américain en ce sens, les organisations de défense des droits humains accuse le président kenyan Uhuru Kenyatta de ne pas respecter la constitution nationale et ses promesses d'obéir aux lois internationales sur les droits humains en usant comme prétexte la promotion de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. Au Mali, plusieurs personnes soupçonnées d'être des djihadistes arrêtées dans le sud du pays près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des précisions avec Bagassi Koura.
Ils sont au moins 15 présumés djihadistes qui ont été arrêtés lundi soir à Zegoua, dans la région de Sikasso, située à environ 460 km de Bamako. Zegoua est la première ville malienne après la frontière ivoirienne. Les personnes arrêtées voyageaient dans un car justement en provenance de la Côte d'Ivoire. Et selon une source sécuritaire citée par l'AFP, ces suspects ont été transférés mardi à Bamako. Parmi eux figurent des Maliens, des Mauritaniens et certains étaient en possession de passeports français. À ce stade de l'enquête, il est clair que ce ne sont pas des voyageurs normaux qui ont été arrêtés, a affirmé à l'AFP une autre source de sécurité, précisant que deux des passagers arrêtés ont reconnu être des membres de la Dawa, une secte islamiste.
Le Libéria a enregistré un nouveau décès dû à l'Ebola, ce qui fait redouter une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique dans ce pays déclaré libre de la maladie le 9 mai dernier. Michel Joseph.
La dernière victime, une femme, est décédée peu après son admission dans un hôpital de Monrovia. Elle vivait près de la capitale libérienne et sa sœur faisait partie de 5 habitants du comté de Margibi, chez qui la maladie a été détectée. C'est le deuxième décès des suites de l'Ebola au Libéria depuis que le virus a refait surface le mois dernier dans ce pays. Une situation qui fait craindre une propagation du virus dans le comté de Montserrado, qui inclut Monrovia. Un rapport envoyé à l'équipe de lutte contre l'Ebola et que cite l'agence Reuters souligne que la victime est morte peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui signifie que le traçage des chaînes de contact des premiers cas n'a pas été rigoureux. 16 membres de la famille de la défunte ont été placés en quarantaine. La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints quant à la réduction des infections du VIH. C'est ce qui ressort de nouveaux rapports des Nations Unies. Lionel Gaïma.
Selon les statistiques onusiennes, le taux de nouvelles infections est tombé de 35% et celui de morts dues au sida de 41%. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui-même annoncé la bonne nouvelle à la presse hier à Addis Abeba.
Today, 15 million people are on life-saving HIV treatment.
Aujourd'hui, 15 millions de personnes suivent un traitement sauvant leur vie. 15 millions, cela signifie que des milliards de familles sont protégées et des milliards de dollars économisés. Et cela signifie aussi que nous nous acheminerons vers une génération libérée sans sida. L'Afrique subsaharienne a toujours été la région la plus affectée par la pandémie, mais les progrès sont signalés sur le continent. La Namibie, le Sénégal et l'Éthiopie, qui ont réduit sensiblement leur taux des nouvelles infections, sont cités un exemple. Selon le rapport de l'ONU, l'accès au traitement a permis de sauver quelque 7,8 millions de vies à travers le monde. Ce traitement signifie également que 1,4 million d'enfants n'ont pas été infectés par leur mère. Par ailleurs, estime Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, dans 6 ou 8 mois, les personnes séropositives pourront cesser de prendre leurs pilules quotidiennes. Bientôt, nous aurons une injection tous les 4 ou 6 mois, ce qui va changer complètement la manière dont nous fournissons nos services aux pauvres. Ils n'auront pas à voyager, ils n'auront pas à venir, ils n'auront pas à stocker ces pilules et courir ainsi le risque de voir ces pilules perdre leur efficacité et créer une résistance aux médicaments. Les injections réduiront le coût de traitement pour les patients. Malgré tous ces développements prometteurs, il reste encore beaucoup à faire. En 2014, il y avait encore 2 millions de nouvelles infections et plus de 13 millions d'enfants ont perdu un parent ou tous les deux à cause du sida. Les objectifs du Millennium pour le développement doivent être remplacés cette année par les objectifs pour le développement durable, le nouvel objectif pour 2030 et l'éradication totale de la pandémie et l'accès au traitement pour tous.
Le tourisme en Tunisie va-t-il pouvoir se remettre des suites des attentats de Sousse et du Bordeaux ? Difficile à dire si l'on tient compte de la récente décision de la Grande-Bretagne de déconseiller formellement à ses ressortissants de visiter la Tunisie. Une mesure ressentie comme un véritable camouflet par les autorités tunisiennes, Claire Morin-Gibourg.
Pris 2 semaines après l'attentat de la station balnéaire de Sousse, durant laquelle 30 citoyens britanniques avaient été tués, l'avis négatif émis par Londres de déconseiller formellement la Tunisie comme destination touristique a été très mal vécu dans le pays. Les professionnels du tourisme tunisien jugent la mesure très inquiétante, la qualifiant de véritable perte de crédibilité pour leur secteur. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne tente d'atténuer sa décision par la voix de son ambassadeur Hamish Cowell, qui s'est exprimé sur la radio privée Shems FM. Nous voulons revenir sur ce conseil aux voyageurs aussitôt que possible, a-t-il affirmé, assurant que le Premier ministre britannique David Cameron s'était entretenu avec son homologue tunisien Habib Essid à ce sujet. Le Premier ministre tunisien a de son côté assuré que son pays avait fait tout son possible pour protéger les intérêts étrangers. Le soir même de l'attentat, la Tunisie avait annoncé le déploiement de plus d'un millier de policiers armés supplémentaires dans les zones touristiques. L'attentat du 26 juin est la pire attaque djihadiste de l'histoire de la Tunisie. Outre le choc qu'elle a suscité dans le pays et à l'étranger, c'est aussi un coup dur pour le tourisme, déjà affecté par l'instabilité qui a suivi la révolution de 2011.
Accord sur le nucléaire iranien, de Washington à Moscou en passant par Téhéran, beaucoup de leaders saluent l'accord conclu à Vienne en Autriche, en y voyant la chance d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Seul Israël dénonce cet accord historique. Jean-Roger Bion.
L'accord parachève d'intenses négociations entre l'Iran et le groupe des 6 puissances pour solder ce dossier qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. Cet accord important et historique peut contribuer de manière essentielle à la paix et à la stabilité dans la région et au-delà, a estimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Londres, Paris, Moscou ne tarissent pas d'éloges et à Berlin, la chancelière Angela Merkel a salué un succès important de la diplomatie internationale, appelant même à une application rapide de l'accord. Le président américain Barack Obama va donner ce mercredi à la Maison-Blanche une conférence de presse pour donner l'avis des experts, une réplique ou critique des républicains au Congrès qui pourrait faire obstacle à son application.
Et pour terminer, la crise de la dette de la Grèce à Athènes, les parlementaires grecs doivent se prononcer aujourd'hui sur plusieurs projets de loi proposés par le Premier ministre Alexis Tsipras pour satisfaire les dures conditions posées par l'Union européenne en échange de leur aide financière pour renflouer l'économie du pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.